Nous partons à Toulouse rejoindre Jean-Michel Martinez, chercheur à l'IRD, directeur du service national d'observation IBAM. Bonjour à vous, dans duplex donc des studios de France Bleu. On va parler avec vous d'un problème de crue exceptionnelle dans le bassin de l'Amazone. Racontez-nous d'abord ce que vous observez dans votre laboratoire, Jean-Michel Martinez, pour comprendre exactement de quoi il s'agit.
Donc, depuis quelques années, nous menons en fait un programme d'observation de l'hydrologie des bassins des fleuves amazoniens, donc du bassin de l'Amazone. On appelle ça un service d'observation qui s'appelle IBAM, Hydrologie du bassin amazonien, qui est porté par l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, où je travaille, et le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse. Et c'est une coopération internationale qui est menée entre la France et les différents pays du bassin amazonien, donc Bolivie, Équateur, Pérou, Venezuela, Colombie, Brésil. Et où interviennent à la fois des ingénieurs, des techniciens, des gens qui dépendent des services hydrologiques, des universités, pour travailler sur la question des ressources en eau dans le bassin de l'Amazone.
Et vous allez donc sur le terrain, évidemment, plusieurs fois par an, c'est ça ?
Voilà, exactement. Là, je pars dimanche, justement, pour aller suivre cette crue. Là. On a à peu près 2 jours pour y aller, entre les avions et les bateaux. Mmh. Et donc, on va aller faire des mesures le long du fleuve Madeira, qui est celui qui subit la crue, mais aussi un autre fleuve, le cours principal du fleuve Amazone, pendant près de 3 semaines.
Alors, justement, un petit mot d'abord sur l'Amazone, parce que c'est vraiment le fleuve géant de la nature. C'est un endroit absolument fabuleux qui concerne plusieurs pays, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, et avec un débit totalement délirant, hein.
Alors exactement, je pense qu'on a tous dans notre imaginaire une image de l'Amazone avec notamment la forêt, le vert, mais c'est aussi un cours d'eau, le plus grand cours d'eau du monde, et vraiment un géant au sens où il surpasse de très loin tous les autres cours d'eau du monde. Il faut imaginer qu'à l'heure où on parle, à la seconde où on parle, si on prend l'eau qui arrive de tous les continents aux océans, eh bien un cinquième de cette eau vient de l'Amazone. Donc ouais. 20% des apports en eau continentale aux océans viennent de ce bassin versant, qui a un débit monstrueux de 206 000 m3 par seconde,
ouais.
qui représente tout simplement 5 fois plus que le deuxième plus grand fleuve du monde.
Voilà.
Donc c'est vraiment un géant hors classe par rapport à tout ce qu'on peut retrouver sur Terre.
Tout
le deuxième
unique,
fleuve étant
donc
le Congo en Afrique.
Ouais. Et donc il traverse beaucoup de pays, combien à peu près en Amérique du Sud ?
Il traverse 6 pays, donc il fait plus de 6 000 km pour le cours principal. Et il part de la cordillère des Andes, donc du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur. Et après, il va traverser notamment, dans sa plus grande partie, le Brésil, pour se jeter à l'océan Atlantique.
Ouais.
Et avec un panache qui, après, va affecter même l'océan Atlantique, puisqu'il y a des anomalies de salinité, de température de l'océan Atlantique tropical qui sont dues à l'Amazone.
Est-ce qu'il passe par la Guyane, Jack, souvent, vous qui êtes un enfant de la Guyane ?
Mais pas du tout.
Non, on n'a pas l'Amazone en Guyane.
Malheureusement, on a l'Orénoque, le Maroni, mais beaucoup plus petit.
Alors, effectivement, la Guyane est un environnement amazonien où le biome et la végétation est de type amazonien, mais les cours d'eau eux-mêmes n'appartiennent pas au bassin de l'Amazone.
Alors, Jean-Michel Martinez, parlez-nous donc de cette crue exceptionnel, parce que dans ces pays dont nous parlons, les crues sont quand même régulières, hein, les habitants en ont l'habitude, mais là vous êtes vraiment face à un phénomène qui dépasse tout ce qu'on avait vu auparavant. Hein.
Oui, alors effectivement, pour parler de cette crue, il faut vraiment enlever un peu les clichés qu'on peut avoir autour d'une crue, notamment par exemple en France. On a vu des crues là cet hiver qui touchaient la Bretagne, la région de Nice. Là, il faut penser à des environnements qui sont habitués à recevoir des crues. Mmh. Chaque année, il y a des crues. Les fleuves peuvent varier de plus de 10 mètres, même jusqu'à 15 mètres de hauteur chaque année. C'est un phénomène naturel.
15 mètres de hauteur, mais c'est énorme, ouais.
C'est énorme. Le record étant, je crois, 18 mètres sur certaines zones. Donc, c'est des immeubles de plusieurs étages. Et donc, la population qui vit là dépend entièrement de ce fleuve. Il faut imaginer des zones qui sont plus grandes que la France, où il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport. Tout dépend de ce fleuve. Et donc, lorsque ces fleuves surpassent toutes les limites, comme par exemple cette crue du Madeira cette année, où le fleuve dépasse de 2 mètres sa cote historique. Il faut imaginer que les gens s'étaient fixés le long des fleuves en se disant « bon, le fleuve à peu près arrive à ce niveau-là ». Cette année, il va dépasser de 2 mètres. Vous imaginez les dégâts que ça peut occasionner, non seulement pour évidemment les sociétés et les gens qui vivent, mais aussi tout simplement pour l'environnement, les zones d'inondation, les poissons et tout ce qui dépend de ce fleuve.
Donc c'est le deuxième affluent, c'est ça, de l'Amazone,
oui.
Le Madeira ?
Alors, comme c'est un bassin hors norme, en fait, les propres affluents du fleuve Amazone sont aussi des géants. Et ce fleuve Madeira, qui traverse 3 pays, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, et qui a un bassin versant, donc la zone où toutes les eaux, toutes les pluies qui tombent vont s'écouler dans ce fleuve, dépasse 2 fois la France, 1 million de kilomètres carrés. Et il aurait un débit de l'ordre de 26 000 m3 seconde, ce qui en ferait le 5e plus grand fleuve s'il se jetait à l'océan. C'est un peu le paradoxe, ce n'est qu'une rivière qui se jette dans l'Amazone, mais qui serait lui-même un des plus grands fleuves du monde.
Alors Jean-Michel Martinez, cette crue exceptionnelle dont on parle, là, elle s'est déroulée quand exactement, est-ce qu'elle perdure encore ?
Alors, c'est aussi un des aspects inhabituels de ces crues-là pour nous, mais qui est totalement naturel dans le bassin de l'Amazone, c'est que ces crues-là, elles s'étendent sur des mois entiers. Donc, on suit cette crue depuis la fin du mois de janvier, qui a commencé sur les contreforts de la Cordillère des Andes. On a eu des équipes qui ont commencé les mesures vers le 30 janvier. On a pu commencer à détecter justement ces anomalies entre la fin janvier et le début février.
Ouais.
Et elles continuent à se propager. Elles commencent à quitter la Bolivie en ce moment même et commencent à affecter de plus en plus le Brésil. Et ces conséquences vont s'étendre jusqu'au mois de mai.
Donc vous suivez évidemment ce phénomène comme le lait sur le feu, et ça concerne quel pays en particulier, avec quelles conséquences bien sûr ?
Donc le Pérou et la Bolivie sont les zones où il pleut en fait. La pluie qui vient de l'Atlantique traverse le bassin et vient s'échouer contre les contreforts andins et vient déverser toute son humidité. Donc les premières zones touchées sont situées au Pérou et en Bolivie. Il y a eu énormément de conséquences dans la Bolivie, notamment sur la région nord, qui correspond à des zones assez peu, où il n'y a pas de route, très peu de moyens de communication. Donc très difficile de savoir les dégâts qui ont été occasionnés, puisque justement, il n'y a que le fleuve qui peut permettre de se déplacer. Et lorsqu'il atteint des niveaux et une telle puissance, il est même impossible de s'y rendre.
Donc ça isole vraiment les populations.
Les estimations qui ont été faites en Bolivie donnent des dizaines de milliers de personnes déplacées et des dizaines de morts en Bolivie. Sachant qu'en Brésil, on va avoir maintenant aussi, du côté brésilien, des gens déplacés, peut-être des blessés et certainement des dégâts matériels.
Jacques Souvent.
Et peut-être la faune aussi, les animaux, tout ça, ils sont chassés aussi par cette crue.
Effectivement, c'est un problème pour les gens qui vont pêcher, par exemple, puisque les poissons se retrouvent complètement dilués sur des zones totalement inondées, donc ils peuvent plus se nourrir. Et puis même, évidemment, pour les poissons, parce que c'est une destruction aussi des habitats. C'est pas seulement les poissons, mais c'est aussi la végétation qui vit en harmonie avec le fleuve, qui a besoin des limons et de la matière qui est déposée chaque année. Mais lorsque le fleuve a dépassé 2 mètres sa côte, je dirais naturelle et régulière, il va emporter des pans entiers, le lit du fleuve va lui-même être bouleversé.
Est-ce que ces crues sont dues aux changements environnementaux, réchauffement climatique, ou autres, déforestation, voilà.
Alors, évidemment, comme tout chercheur, je dirais que essayer de cibler un seul événement et le relier à une cause directe, ça serait trop facile. Mais ce qui est important et à voir justement, c'est de placer cette crue dans un contexte récent. Nous avons publié des études récemment où nous montrons que depuis une trentaine d'années, donc on a à peu près une centaine d'années d'historique sur l'hydrologie amazonienne, sur certains cours d'eau, pas tous évidemment, on montre que depuis les années 70, on a une tendance à l'augmentation de ce qu'on appelle les événements extrêmes, c'est-à-dire ces grosses crues et des étiages, c'est-à-dire au contraire les grosses sécheresses. Alors cet événement, on contraste ces graphiques-là, on voit depuis les années 70 une inflexion, donc plus de crues, plus d'étiages. Et depuis une dizaine d'années, on a tout simplement des événements complètement hors normes, du type de ceux qui viennent d'affecter aujourd'hui le fleuve Madeira, avec 2 énormes étiages sur le fleuve Amazon en 2005 et 2010, et 2 énormes crues elles-mêmes historiques sur le fleuve Amazon en 2009 et 2012.
Et donc sur les causes
Ce contexte nous amène à penser qu'effectivement, on assiste à une modification du fonctionnement de l'hydrologie du plus grand bassin du monde. Et les raisons pour lesquelles qui pourraient influencer ce changement sont évidemment multiples. On a identifié sur les dernières grosses crues qui ont lieu en 2009 et en 2012, qui étaient elles-mêmes des crues exceptionnelles, l'influence de la température des océans, notamment l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, et avec des phénomènes La Niña, c'est-à-dire une anomalie négative de température sur le Pacifique et au contraire plus chaude sur l'Atlantique, qui avait provoqué des excès de pluie dans certaines parties du bassin versant de l'Amazone. Là, pour l'instant, on n'a pas d'explication. On n'observe pas ces mêmes anomalies pour expliquer la crue du Madeira. Et donc, il va falloir retrouver, faire tourner les modèles et réanalyser les données pour comprendre ce qui s'est passé, ce qui a généré ces énormes pluies qui ont donné lieu ensuite à cette énorme crue.
Et donc, vous partez sur place dimanche, Jean-Michel Martinez, je crois. Vous partez en Bolivie exactement ?
Non, je parle au Brésil en fait. On va travailler maintenant au Brésil où la crue va se propager.
Merci en tout cas pour ces informations avec tous les chercheurs de l'IRD qui travaillent donc en collaboration avec plusieurs pays d'Amérique du Sud, et puis évidemment pour cet événement important qui concerne quand même des dizaines de milliers de personnes, dont on a assez peu parlé d'ailleurs en France depuis la fin du mois de janvier, mais sur lequel donc vous êtes extrêmement attentif. Merci Jean-Michel Martinez.
Si je peux simplement souligner le fait que cette recherche elle se fait vraiment en coopération avec les organismes de recherche dans les différents pays. On forme des étudiants, on forme des techniciens. Et c'est vraiment un aller-retour entre la recherche, entre la France et ces pays-là. Et notre idée, évidemment, de former les chercheurs de ces régions-là pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main et étudier les causes de ces phénomènes en coopération voilà. avec nos unités de
et
recherche.
Et puis, il y a le site de l'IBAM qui est en lien sur la tête au carré pour ceux qui souhaitent savoir exactement les travaux menés par votre observatoire. Merci Jean-Michel Martinez, merci aux équipes de France Bleu Toulouse.